Donc voilà, je me présente, je suis le père Ulrich de Gélis, du diocèse de Paris. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel, et je suis en ministère au séminaire de Paris, dont je ne suis pas le supérieur. Il y a une petite erreur sur vos feuilles, donc je ne suis pas le supérieur du séminaire de Paris. Je suis un des formateurs du séminaire de Paris, et donc mon ministère, c'est essentiellement la formation des séminaristes, tant sur un plan humain que sur un plan spirituel. Je suis aussi donc directeur spirituel, père spirituel si vous voulez. Et puis je donne aussi des cours de théologie à la faculté Notre-Dame au collège des Bernardins. Voilà. Et puis je m'occupe aussi, j'ai une petite pastorale aussi dans une paroisse à Paris, dans le 3e arrondissement. La paroisse s'appelle Saint-Nicolas-des-Champs, qui est une paroisse confiée à la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Alors je suis un petit peu du coin aussi, parce que j'ai quelques incohérences bretonnes. Et j'ai passé pas mal de mon enfance en fait du côté de Lorient, du côté d'Ennebon. Voilà, certains connaissent évidemment. Et mes parents habitent à l'Armor-Plage, pas très loin d'ici, vous voyez. Voilà, donc quelque part, je reviens au pays. Je remercie le père Paul qui m'a proposé de venir vous donner ces quelques mots à propos du Triduum Pascal. Parce que c'est ce que nous allons faire pendant ces 5 conférences, qui sont 5 méditations à partir de l'Écriture sainte et à partir donc des textes d'Évangile que la liturgie au cours de ce Triduum met particulièrement en valeur. Alors ça c'est un premier point, c'est que c'est assez étonnant, vous voyez, par rapport à des eucharisties traditionnelles, la liturgie du Triduum met particulièrement en valeur un certain nombre de textes de l'Évangile ou de l'Ancien Testament. Par exemple, ce soir, l'Évangile sera doublé par un geste que vous connaissez bien, le lavement des pieds, mais qui est une manière de revivre l'Évangile et de mettre en valeur l'Évangile de ce soir, sur lequel je vais parler tout à l'heure. Demain, évidemment, l'Évangile, vous le connaissez, c'est un Évangile assez long que nous écouterons, l'Évangile de la Passion de Jésus selon saint Jean. Donc là encore, une place tout à fait privilégiée à cet évangile, d'autant plus que demain, il y a l'Eucharistie, comme vous le savez. La liturgie de la Passion, la vénération de la croix, n'est pas une messe. Il n'y a pas la consécration de l'Eucharistie, mais nous nous unissons au Seigneur, non pas par la communion, comme nous le faisons habituellement le dimanche, mais nous unissons au Seigneur en écoutant sa parole. Le samedi soir, évidemment, là encore, la liturgie met très fortement en valeur la parole de Dieu, puisque vous savez qu'il y a tout ce grand cortège des lectures de l'Ancien Testament, puis de l'Épître de saint Paul, avant d'arriver enfin à la lecture de l'Évangile, où nous lisons l'annonce pascale des anges aux saintes femmes venues embaumer le corps de Jésus. Et le dimanche de Pâques, eh bien, l'Évangile est encore mis en valeur par cette séquence. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une séquence. C'est un petit chant qu'on va chanter avant l'Évangile. Le chant latin « Victime Pascalis Laude ». Voilà. Et que vous entendrez certainement alors dimanche, et qui met en valeur cet Évangile. Donc vous voyez que quand on prend les différents moments en fait, du Triduum, eh bien, il y a une place toute particulière accordée à l'Évangile, à la lecture de la parole et à l'Évangile. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que vous savez que le Triduum Pascal est le cœur de l'année liturgique, le cœur de la vie chrétienne, et qu'il est juste, alors que ces moments sont importants pour nous, que nous puissions nous ressaisir du premier commandement du Seigneur, que l'on trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, et que vous connaissez par cœur. Vous le connaissez ? Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Shema Israël Adonai Elohenu, Echad, en hébreu. Oui, écoute, Israël, c'est le premier commandement. C'est très étonnant, vous voyez ? Le premier commandement n'est pas de faire quelque chose, mais c'est au contraire plutôt de ne rien faire, parce que écouter veut d'abord dire « Pardonnez-moi, tais-toi !» D'accord ? Il faut d'abord faire silence pour pouvoir écouter. Et c'est bien ce que le Seigneur nous demande de faire pendant ces jours saints. c'est de faire d'une certaine manière silence et de taire un petit peu toutes ces voix et ces activités qui peuvent résonner dans notre cœur pour laisser la place royale à la parole de Dieu. Il s'agit dans ce tridium pascal, et c'est peut-être la grâce que je vous propose que nous demandions tous ensemble, il s'agit d'écouter la parole de Dieu et de l'écouter à neuf, avec un cœur nouveau, avec des oreilles nouvelles. Je dis parfois à mes séminaristes que si nous avons deux oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Vous voyez ? Et je pense que le Seigneur qui a agencé nos organes a bien fait les choses. Vous voyez, il nous a donné deux oreilles, mais une seule bouche. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'écouter, et d'écouter deux fois plus qu'on ne parle. Alors voilà, frères et sœurs, c'est vraiment la grâce que je vous demande, que je vous propose que nous demandions, que nous prenions soin de nos oreilles pendant ce tridium pascal, et que nous écoutions ce que le Seigneur a à nous dire. Alors avec ce petit préambule, je voudrais maintenant ouvrir avec vous, en attendant la liturgie du Jeudi Saint, je voudrais ouvrir avec vous l'évangile de Jean, le chapitre 13, les versets 1 à 15 que nous allons entendre ce soir, et puis je donnerai aussi quelques versets qui suivent et qui sont importants pour bien comprendre ce dont il va s'agir ce soir dans l'évangile. Vous le connaissez par cœur, cet évangile. Et cet évangile est d'ailleurs magnifique. Vous le connaissez par cœur parce qu'il revient tous les ans. C'est l'évangile du lavement des pieds. Cet évangile, l'Église le proclame le Jeudi Saint. Et vous savez ce que nous fêtons le Jeudi Saint ? Nous fêtons deux choses. Vous savez, l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans le lavement des pieds. C'est qu'on ne parle ni d'Eucharistie, et a priori, on ne parle pas de sacerdoce. En tout cas, ce n'est pas visible comme ça. Vous voyez, c'est très étonnant que le jour où l'Église célèbre l'Eucharistie, alors que je vous ai dit que l'Évangile avait une place importante dans la liturgie pascale, eh bien, que nous ne lisions pas un des trois autres Évangiles, Marc, Matthieu ou Luc, dans lequel il est précisément question de l'institution de l'Eucharistie. Nous allons l'entendre, l'institution de l'Eucharistie, dans la seconde lecture, tirée de la première épître aux Corinthiens au chapitre 11. Mais l'Évangile ne parlera pas de l'institution de l'Eucharistie. Quand on réfléchit à cette question, à ce petit embarras, eh bien notre embarras se redouble. Pourquoi ? Comment se fait-il que Jean, un évangéliste, ait omis de parler de l'Eucharistie. Ça, c'est aussi une vraie question. Pourquoi ? Alors que l'évangile de Jean est quand même quelque chose d'important pour nous, hein, et pour l'histoire de l'Église, pourquoi Jean ne parle-t-il pas de l'Eucharistie ? Hypothèse. Serait-ce parce que Jean trouve que ça n'a aucun intérêt ? Non. Ceux qui ont répondu non ont trouvé la bonne réponse. Mais pourquoi donc, alors, si Jean a trouvé et pensait que c'était important, pourquoi donc ne le dit-il pas ? Eh bien, une des réponses possibles, alors cette question-là, vous savez, a interrogé beaucoup d'exégètes et de gens qui lisent l'Écriture et qui fouillent, une des réponses est évidemment que si Jean ne parle pas de l'Eucharistie, c'est qu'il la suppose. Il suppose que c'est connu. Et de fait, Jean écrit son évangile aux alentours des années 90-95 de notre ère, 60 ans après la mort de Jésus. Ça fait donc 60 ans que l'Église, au moment où Jean écrit son évangile, 60 ans que l'Église célèbre régulièrement l'Eucharistie, et nous en avons des traces de la célébration de la première Eucharistie au sein de l'Église. L'une des traces que l'on peut convoquer, vous voyez, on mène une enquête, une des traces que l'on peut convoquer à notre tribunal, entre guillemets, un des témoins que nous pouvons faire parler sur cette célébration de la première, des premières Eucharisties dans le sein de l'Église, c'est précisément saint Paul. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens que nous allons entendre ce soir, parle précisément des premières Eucharisties au sein de l'Église. La première épître aux Corinthiens a été écrite entre 54 et 56 après Jésus-Christ. une vingtaine d'années après la mort de Jésus. Et saint Paul s'adresse à des Corinthiens. Les Corinthiens sont des Grecs, ce sont des non-juifs, ce qui veut dire une chose, ça veut dire que la pratique de l'Eucharistie est déjà passée du milieu juif chrétien à un milieu grec chrétien, 20 ans après la mort de Jésus. Ce qui montre que c'était réellement une pratique importante pour l'Église. Et Jean présuppose certainement que cette pratique est connue et qu'elle est vénérée dans l'Église. Mais de nouveau, la question surgit. Pourquoi donc Jean n'as-tu pas parlé de l'Eucharistie ? Peut-être que si Jean n'a pas parlé de l'Eucharistie, c'est que non seulement il la présuppose connue, mais que d'autre part, il a vu au cours de ce repas quelque chose de si important à ses yeux qu'il a voulu en faire tout le récit de ce repas, à savoir le lavement des pieds. Jean nous propose un récit unique de la dernière scène de Jésus. S'il nous propose un récit unique de la dernière scène de Jésus, c'est sans doute parce qu'il a vécu une expérience unique au cours de ce dernier repas. Quelle est cette expérience unique que Jean aurait vécue ? Vous le savez, Jean est le seul apôtre qui ait penché sa tête sur la poitrine de Jésus. Qu'a-t-il entendu quand il a penché sa tête sur la poitrine de Jésus ? Les battements de son cœur, c'est évident. Et les battements de son cœur étaient-ils réguliers, normaux, ou étaient-ils particuliers ? Évidemment, ils étaient sans doute particuliers. Pourquoi ? Parce que juste quelques versets auparavant, Jésus vient de dire qu'il a été troublé d'un grand trouble. Quel est ce trouble qui agite le cœur de Jésus ? Il sait qu'un de ses amis va le trahir, Judas. Et que malgré tout, il décide de donner sa vie jusqu'au bout. Voilà peut-être ce que entend Jean. Il ne l'entend pas comme ça, évidemment. Il entend des battements de cœur, vraisemblablement. Et sans doute qu'il a fallu du temps à Jean pour comprendre ce que tout cela pouvait signifier. Il a fallu certainement attendre la résurrection et le fait que le Seigneur, comme dit l'Écriture de manière assez pudique, mais ouvre l'intelligence des disciples au mystère de l'Écriture. Il a fallu sans doute cela. Mais vous voyez, cette expérience unique de Jean lui donne une acuité visuelle tout à fait particulière et il va saisir un geste au sein de ce repas qui, selon lui, explique tout le reste. Et ce geste, vous le savez bien, frères et sœurs, il s'agit du lavement des pieds. Alors, l'hypothèse que je vous propose, c'est de dire que le lavement des pieds explique l'Eucharistie. Le lavement des pieds explique l'Eucharistie et évidemment explique le sacerdoce. Et c'est bien ainsi que l'Église, au cours des siècles et des millénaires, a compris ce récit du lavement des pieds. Le lavement des pieds est une explication de l'Eucharistie. J'essaierai de revenir là-dessus tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voudrais continuer mon fil. Ce que Jean entend en se penchant sur la poitrine de son maître, ce sont les battements du cœur du Christ. Et les battements du cœur du Christ sont le signe de son amour. Il comprend, Jean, que tout doit se voir et tout doit se lire sous le signe de l'amour. Jean, vous savez, Jean est symbolisé par un aigle. Vous connaissez ça. Les quatre évangélistes sont tous symbolisés par des animaux différents. Et Jean est symbolisé par un aigle. Ce qui caractérise l'aigle, c'est qu'il a une vue perçante. Il est capable de voir les petites choses et leur donner toute leur signification. Et c'est bien ainsi qu'est rédigé l'évangile de Jean. Et Jean a vu, il a compris à travers les battements de son cœur qu'il était question d'amour. Et il le dit dans son évangile. Il le dit explicitement dans son évangile. Attention, il s'agit ici de l'amour de Dieu. Vous connaissez comment commence cet évangile que nous allons entendre ce soir ? Jésus, lui qui était dans le monde, aima les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. jusqu'au bout. En grec, le mot jusqu'au bout se dit jusqu'au télos. C'est un mot important en grec parce que le télos, vous savez que l'évangile a été écrit en grec, le télos signifie à la fois l'extrême, d'ailleurs c'est peut-être la traduction qu'on retiendra ce soir, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est ça. Il les aima jusqu'à l'extrême. Ça veut dire l'extrême, ça veut dire la perfection, ça veut dire la totalité. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Jean, quand il voit le lavement des pieds, est capable d'y voir le signe de la totalité de l'amour de Jésus pour ses disciples. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce geste du lavement des pieds. Il les aima jusqu'au télos. Demain, quand nous entendrons l'évangile de la Passion, nous entendrons plusieurs paroles de Jésus. Et la dernière parole de Jésus dans l'évangile de Jean, que l'on trouve au chapitre 19, verset 31, c'est « Tout est accompli ». Vous connaissez cette parole. En grec, ça se dit « tétélestai ». Et le « tétélestai » est construit sur la même racine que le « télos ». Donc, quand Jésus meurt sur la croix, il dit « Tout est arrivé au télos ». Le même mot revient au début de l'évangile de saint Jean que nous allons entendre ce soir à propos du lavement des pieds, et c'est le même mot que l'on retrouvera dans la bouche de Jésus, dans un verbe, « tout est accompli ». Pourquoi est-ce que Jean utilise le même mot, qu'il a entendu le même mot dans la bouche de Jésus, et pourquoi est-ce qu'il reprend ce mot-là au début de l'évangile de Jean? Eh bien pour vous dire qu'il s'agit du même amour, que Jésus qui lave ses pieds, est en train de donner sa vie pour ses disciples. Comme dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, les paroles de la consécration, c'est « Prenez et mangez, voici mon corps, livré pour vous, et mon sang versé pour vous. » Et ce soir, nous entendrons au début de l'évangile de Jean, il a aimé les siens jusqu'au télos, jusqu'à la perfection. Et nous savons maintenant, nous qui avons lu l'évangile jusqu'à la Passion, nous savons ce que signifie cette perfection de l'amour de Dieu. Il va jusqu'à livrer son corps, il va jusqu'à verser son sang, il va jusqu'à dire sur la croix, tout est accompli. Nous pouvons creuser encore davantage l'Écriture. Et nous remarquons une chose, c'est qu'au cours de ce repas, Jésus se lève, il dépose ses vêtements. Vous allez l'entendre ce soir. Et le Père Paul, qui va présider l'Eucharistie tout à l'heure, le refera par le même geste, il déposera sa chasuble. Déposer ses vêtements. Là encore, c'est quelque chose, pour ceux qui lisent l'Évangile de Jean, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est le même verbe, je ne vais pas le dire en grec, mais c'est le même verbe, que celui que Jésus a employé au chapitre 10, à propos du bon berger qui dépose sa vie. Il dépose sa vie pour ses brebis. Il dépose sa vie pour ses brebis. Voilà le bon berger. Et c'est ça qui distingue le bon berger du mercenaire. Le mercenaire ne dépose pas sa vie pour ses brebis. Voit-il le loup qu'il s'enfuit. Hop ! Il prend la poudre des escampettes. Non ! Le bon berger dépose sa vie. On peut faire toute une recherche biblique sur la symbolique du vêtement. Et nous trouverions dans l'Écriture que le vêtement symbolise la vie. Être habillé, c'est avoir revêtu une vie. Et saint Paul le dit d'ailleurs dans une de ses épîtres à propos des baptisés, « Vous avez revêtu le Christ comme un vêtement. » Ça, c'est la vie éternelle. Le vêtement, c'est la vie. Déposer son vêtement dans l'Écriture, c'est déposer sa vie. Déposer sa vie, c'est donner sa vie. Et nous comprenons maintenant que c'est aussi livrer son corps et verser son sang. Vous voyez, le récit du lavement des pieds est un récit qui explique l'Eucharistie. Ça reprend l'Eucharistie et ça l'explique. Pourquoi ça l'explique? Eh bien parce que le geste du lavement des pieds, c'est un geste de serviteur. Et nous voyons dans le récit du lavement des pieds que l'Eucharistie est un service que Jésus accomplit pour ses apôtres. Savez-vous comment nous disons service en latin ? Ministerium. Jésus accomplit son ministère quand il lave les pieds de ses apôtres et quand il dépose sa vie et qu'il leur livre sa vie, son corps et son sang. Et là, on pourrait parler des prêtres à ce moment-là. Les prêtres sont serviteurs, les prêtres sont ministres. Et vous voyez que dans le lavement des pieds, finalement, il est question de l'Eucharistie et il est question du service. Il est question du service des prêtres. Quelles sont les deux grâces que reçoivent les disciples lorsque Jésus leur lave les pieds ? Il y a deux grâces dont nous parle l'évangile de Jean. La première des deux grâces, c'est qu'ils sont purs. Voilà, il va dire ça aux disciples. « Je vous ai lavé les pieds, maintenant vous êtes tous purs, sauf un, mais vous êtes tous purifiés. » Frères et sœurs, que produit comme grâce notre Eucharistie ? Le pardon des péchés. Et vous voyez que là encore, nos deux textes finalement parlent de la même chose. Quelle est l'autre grâce produite par le lavement des pieds ? C'est ce qu'il dit à Pierre. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne seras pas en communion avec moi. » Et que produit l'Eucharistie, frères et sœurs ? La communion avec le Christ. Et vous voyez bien encore une fois que les récits de l'Eucharistie et le récit du lavement des pieds, finalement, parlent de la même chose, mais sous deux points de vue différents. Et le point de vue adopté par Jean, c'est le point de vue du service, et je vous l'ai dit, c'est le point de vue de l'amour. Alors je voudrais reprendre encore ce point-là avec vous, le point de vue de l'amour, le point de vue de l'amour qui se met à notre service. Point de vue de l'amour, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est ce que Jean a entendu quand il s'est penché sur la poitrine de son maître et qu'il a entendu battre son cœur. Quelle est la condition, frères et sœurs, minimale pour que quelqu'un puisse aimer une autre personne ? À votre avis, quelle est la première de toutes les conditions ? Avoir du cœur, ça c'est clair, il faut avoir du cœur. Quelle est l'autre condition ? Une condition plus fondamentale encore. S'aimer soi-même, ça fait référence au verset du Lévitique. Il faut être libre. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord ? Il faut être libre. Donc, et alors ça, ce point est important. Si Jésus aime ses disciples jusqu'au bout, et on pourrait même rajouter, s'il continue à aimer Judas jusqu'au bout, puisqu'il va lui laver les pieds. Il faut penser à ça. S'il aime ses disciples jusqu'au bout, c'est qu'il est libre. Il est libre. Il est parfaitement libre. Et Jean, qui a un œil d'aigle, voit cette scène, a repéré que Jésus était parfaitement libre. Et il le dit dans l'Évangile. Il le dit d'une manière assez spéciale, il le dit à la manière juive et d'une certaine manière à la manière grecque, mais il dit que Jésus est libre et plus libre que n'importe qui d'autre. Voilà comment l'Évangile de Jean nous dit que Jésus est libre. Jésus, dit Jean, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, repérez bien, Jésus sait que l'heure est venue. D'accord ? Continuons. Sachant que... Donc Jésus sait plein de choses. Il sait que l'heure est venue. Il sait quoi ? Il sait que, et c'est ça le point qui est important, il sait que le Père, lui, a tout remis entre ses mains. Il sait qu'il vient de Dieu et il sait qu'il va vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ces phrases-là ? Ça veut dire que Jésus, d'abord, sait plein de choses. Il sait que l'heure est venue, d'accord ? Donc, le sachant, d'une certaine manière, il pourrait fuir. Mais il ne fuit pas. Mais il sait aussi que le Père lui a tout remis entre ses mains. C'est quoi ce tout que le Père lui a remis entre ses mains ? C'est quoi ? C'est la totalité de la puissance divine. Jésus est Dieu. Et Jésus est tout-puissant. Il peut tout faire. Il a dans ses mains la totalité de la puissance divine. On ne peut rien faire contre cet homme. Jésus est un homme extraordinaire, vous savez. C'est un homme unique. Si vous prenez le récit du ministère public de Jésus, à chaque fois qu'on veut l'arrêter, il arrive à prendre la fuite. Et on le dit plusieurs fois, ils ne parvinrent pas à mettre la main sur lui car son heure n'était pas venue. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage de Jésus à Nazareth ? Vous savez, Jésus revient à Nazareth, il arrive dans la synagogue de Nazareth et il se met à chercher la parole d'Isaïe. Et puis là, il y a une espèce d'embrouille, les gens ne sont pas contents, je ne rentre pas dans les détails, et ils veulent pousser Jésus jusqu'à un escarpement, vous connaissez cet évangile, un escarpement de la ville de Nazareth, ou pour le précipiter en bas. Jésus arrive à passer, dit l'évangile de Luc, il passa au milieu d'eux et il passa son chemin. Pourquoi ? Parce que cet homme est trop puissant pour qu'on puisse mettre la main dessus. On ne peut pas mettre la main dessus. C'est Dieu. On ne peut pas mettre la main dessus. Et cette puissance de Jésus s'atteste encore par bien d'autres manières. Les miracles, ce sont des signes de sa puissance. L'expulsion des démons, voilà encore des signes de sa puissance et d'une puissance incroyable, puisqu'elle a même pouvoir sur les esprits impurs, dit l'Évangile. Et même une puissance qui va plus loin encore, parce qu'avant même d'être ressuscité d'entre les morts, Jésus a une puissance plus grande que la mort. Il y a 6 résurrections des morts dans l'Écriture, 7 résurrections des morts dans l'Écriture. 3 d'entre elles ont été accomplies par Jésus. La fille de Jaïr, dans l'évangile de Jean, le fils du veuve de Naïm, et évidemment Lazare, que nous avons entendu il n'y a pas très longtemps. Voyez, dans cet homme, qui n'est pas un homme comme vous et moi, c'est un homme comme vous et moi évidemment, d'accord ? Lui aussi, il a ses deux oreilles, hein, mais c'est un homme comme vous et moi. Mais dans cet homme, eh bien, réside, comme le dit saint Paul, la totalité, corporellement, la totalité de la divinité, c'est-à-dire la toute-puissance de Dieu. C'est par lui que les mondes ont été faits. Alors, frères et sœurs, si cet homme est ainsi puissant que nul ne peut mettre la main dessus, alors vous comprenez que ce qu'il fait, il le fait de manière complètement libre. Et c'est bien ça que Jean a repéré, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, sachant qu'il vient de Dieu et qu'il est Dieu, que personne ne peut mettre la main sur lui, que nul ne peut forcer son geste, qu'aucun d'entre nous ne pouvons le contraindre. Que fait-il ? Il dépose son vêtement, il donne sa vie, il lave les pieds de ses disciples. Et il le fait, frères et sœurs, en toute connaissance de cause, et il le fait de manière parfaitement libre, parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est toujours très bouleversant de voir quelqu'un de puissant s'abaisser, ou de quelqu'un de grandiose, de quelqu'un de grand, s'abaisser pour rendre service à des plus petits, surtout quand il le fait de manière libre. Eh bien, pour le cas de Jésus, ça a dû être absolument bouleversant. Pierre, d'ailleurs, a trouvé ça insupportable. « Seigneur, toi me laver les pieds ? Mais enfin, Jésus, je t'ai vu marcher sur les routes de Palestine, toi qui as guéri des malades, toi qui as expulsé des démons, toi qui as ressuscité des morts, toi qui as eu des discours tels que personne comme toi ne peut parler au monde. » Toi qui es un si grand rabbi, un maître de sagesse, toi qui es le fils de David, le roi d'Israël, toi tu vas te baisser pour me laver les pieds ? Il est hors de question, dit Pierre, hors de question que tu fasses cela. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Ce que je fais maintenant, tu ne peux pas le comprendre, mais tu le comprendras plus tard. Pourquoi ? Pourquoi dit-il ça à Pierre ? Eh bien, parce qu'il faut du temps pour entrer dans ce mystère. Il faut du temps pour accepter qu'un homme aussi grand, qu'un homme aussi puissant, qu'un homme aussi fort, qu'un homme aussi bon, fasse un geste pareil. Et d'ailleurs, si nous continuons à lire l'évangile de Jean, nous verrons une chose, c'est qu'au moment même où ce fils de David, cet homme, ce fils de Dieu s'abaisse, eh bien c'est comme si Dieu publiait sa gloire. Ça, frères et sœurs, c'est une loi classique dans l'Écriture. Dieu est glorieux quand il s'occupe des hommes, quand il s'abaisse. La gloire de Dieu ne consiste pas à montrer ses biscottos. Pardon, excusez-moi de dire ça. Mais la gloire de Dieu ne consiste pas à montrer ses biscottos. La gloire de Dieu consiste à mettre la totalité de sa puissance au service de sa tendresse. La totalité de sa grandeur au service de son humilité. La totalité de sa sainteté au service de la miséricorde. La totalité de sa grandeur au service de son amour. Ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu est glorieux quand il s'abaisse. Et dans l'évangile de Jean, il est vraiment question de la gloire de Dieu. Nous n'allons pas l'entendre ce soir dans l'évangile, parce que l'évangile s'arrête avant. Mais si vous allez voir au verset 31, à la fin de ce passage-là, après que Judas soit parti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu le glorifiera encore. » La gloire de Dieu, c'est précisément son abaissement. Saint Paul a été bouleversé par cette révélation, à tel point qu'il en a écrit une hymne, l'hymne aux Philippiens que vous connaissez certainement. Lui, dit-il à propos de Jésus, lui qui existait comme Dieu, n'a pas revendiqué pour lui-même d'être traité à l'égal de Dieu, mais, continue Paul, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et saint Paul continue, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Philippiens 2, versets 6 et 7. Vous voyez, Dieu s'exalte quand il s'abaisse. Le service de Dieu n'est pas infamant pour lui. De laver les pieds de ceux qu'il aime, ça n'a rien d'infamant pour Dieu. Et au contraire, c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose de grand et c'est quelque chose de fort. Ça, c'est la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu, puis je vais m'arrêter là, mais cette gloire de Dieu, frères et sœurs, fait toute la différence entre notre Dieu à nous et les idoles. Car quand on regarde dans l'Écriture, aucune idole ne veut ainsi s'abaisser et rendre service aux hommes. Aucune idole dans l'Écriture ne veut s'abaisser et rendre un tel service aux hommes. Qu'est-ce que c'est qu'une idole ? Une idole est une projection de notre désir, de notre cœur. C'est un fantasme, on pourrait dire. C'est une projection de notre orgueil. Et notre orgueil refuse de s'abaisser. Et c'est parce que l'homme avait du mal à comprendre que la gloire était le service, qu'il a imaginé des dieux, à savoir des idoles, qui, au lieu de s'abaisser pour rendre service aux hommes, demanderait aux hommes de les servir. Et ça, c'est l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un monde dans lequel nos images de Dieu exigent que nous les servions. Quand on y réfléchit, nous avons des tas d'images de Dieu, vous savez. Nous avons des tas d'images de Dieu. À chaque fois qu'une idée exige que nous nous mettions à son service de manière illégitime. Je pense parfois que certains de nos intérêts professionnels agissent comme des idoles et demandent de notre part un service qui n'est pas dû. Je pense que parfois, certaines de nos idées du confort matériel, et je le dis aussi pour moi, etc., on peut trouver des tas d'autres idées, eh bien, exigent un service de l'homme alors que cela n'est pas dû et que cela brise notamment la dignité des plus petits, des plus faibles. Vous voyez, parfois je me dis, et je le dis d'abord pour moi, l'idole a la vie dure. Moi-même, je m'impose des propres idoles et je me mets à leur service la réputation, le qu'en dira-t-on, mon propre ministère, que sais-je, on peut trouver des tas d'autres idées. Et je m'esquinte à servir ces idées-là au lieu de me mettre au service du Dieu vivant et surtout avant de voir que c'est Dieu lui-même qui se met à mon service. Alors je voudrais arrêter avec ça parce que vous voyez, si je parle de la gloire de Dieu, c'est que précisément quand Dieu s'abaisse, il montre qu'il est radicalement différent de toutes ces idées-là qui parfois traînent dans nos têtes. Il montre qu'il est radicalement différent de toutes ces idées-là qui traînent dans nos têtes. Lui, ce Dieu, il s'abaisse et il se donne totalement, absolument, dans son service, dont la grâce est double, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord de nous purifier de tous nos péchés, et ça nous en aurons un regard spécifiquement demain en méditant la Passion, et deuxième grâce, pour sceller entre lui et nous une communion indestructible. À la fin de ces chapitres, de 13, 14 et 15 de l'Évangile de Jean, Jésus dit ceci à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » Alors ce soir, pour vivre peut-être la dernière scène, alors que nous allons entendre d'abord ce récit de l'Évangile et puis nous allons le voir, entre guillemets, symboliquement, dans le geste que posera le Père Paul tout à l'heure, eh bien je vous propose que nous ouvrions les portes de notre cœur, que nous consentions à être ainsi servis et visités par ce Dieu qui met sa gloire à nous laver les pieds. N'empêchons pas Dieu d'être Dieu, frères et sœurs. N'empêchons pas Dieu d'être glorieux et acceptons qu'il vienne ainsi nous servir et nous laver les pieds. Voilà une première attitude spirituelle. Et puis peut-être une deuxième attitude que nous pourrons aussi conserver pendant ces jours du Tridium Pascal, c'est ceci, c'est que si notre Dieu a mis sa gloire à nous servir, alors nous aussi, comme Jésus le dira dans l'Évangile, servons-nous les uns les autres, mettons-nous au service les uns des autres. Voilà une deuxième manière de vivre ce Tridium, et voilà peut-être une autre manière de prendre l'énergie de l'Eucharistie que nous allons recevoir tout à l'heure pour pouvoir en vivre, de nous mettre au service les uns des autres. De même que Jésus, à qui le Père avait tout remis, de même que ce Jésus-là, librement, s'est abaissé pour nous servir. Nous entrons ainsi dans le Tridium Pascal, qui est le grand service de Dieu pour l'humanité, son ministère. Et puisque je parle de ministère, chers amis, priez pour vos prêtres, pour que nous soyons nous aussi, pour vous, d'agréables et de bons serviteurs. Amen.
Merci.